De quoi s'agit-il?
C'est tout ce qu'il y a de simple, voyons.
Enfin, qui êtes-vous?
Répondez.
Je ne sais pas pourquoi vous nous faites perdre notre temps.
C'est vraiment incompréhensible.
Alors j'écoute.
Merci.
Eh ben, je vous écoute, parler, allez.
Allez-vous me répondre, oui ou non?
Cinérama.
Vous en êtes sûr?
J'en suis certain.
Ah, un petit mot encore.
Cinérama.
Que faites-vous maintenant?
Actualité cinéma.
Ah bah voyez-vous ça.
Et tout le reste.
Je ne craindrai pas d'affirmer que notre émission est une entreprise de salubrité publique.
C'est délicieux. Nous avons tous nos petits fantasmes.
Je sais que vous êtes très occupés, aussi nous ne vous retiendrons pas longtemps.
Je serais ravi de vous croire.
Avenger affole les compteurs et va sans doute devenir le film ayant engrangé le plus de dollars en un rien de temps. Eh bien, nous allons proposer des films plus confidentiels qui ont besoin de spectateurs pour exister. Et à l'exception de Hellboy, c'est en effet une émission parlant de films avec une trentaine de copies que nous vous convions aujourd'hui. N'est-ce pas, Marine?
Oui, bonjour à tous. Alors moi, eh bien, je vais vous parler de deux films qui sont des premiers films, Les Météorites de Romain Laguna et Versus de François Vallat. Et ces deux films, eh bien, qui ont en commun d'avoir l'air d'être des teenage movies et finalement de dériver vers le cinéma de genre. Et c'est ça qui en fait tout leur intérêt.
Et on écoutera le réalisateur des Météorites.
Exactement, que j'ai interviewé.
Et toi, Manu?
Mais deux films très différents, dont un premier film basque, un film d'animation, hein, Black is Belza. Et puis un film polonais, Fugue, d'Agnieszka Smozinska.
Et moi, j'aurais aussi un premier film, c'est Retour de flamme de l'Argentin Juan Vera. Et puis, je vous parlerai très rapidement de Hellboy. Donc ça, c'est le super-héros corné. Allez, entre naturalisme psychologique, drame social et film d'horreur, c'est Versus.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément.
J'ai envie que ça bouge, putain.
Genre?
Je sais pas.
Voilà, ça résume quand même assez bien les dialogues du film, on va dire assez bien. Achille vient rejoindre sa tante dans sa maison de vacances en bord de mer. Quelques mois auparavant, il s'est fait violemment agresser à Paris. Il en est sorti traumatisé et tente de se reconstruire. Sa trajectoire va croiser celle de Brian, jeune homme marginal qui vit de petits trafics. Les deux jeunes hommes, issus de milieux sociaux différents, mais que l'on devine tous les deux abîmés par la même violence, vont se rencontrer, se confronter et évoluer jusqu'au point de non-retour.
Ils étaient combien en fait?
4 ou 5.
Mais ils t'ont pris quelque chose, ça me paraît dingue. 5 contre 1, c'est des lâches.
5 contre 1, c'est la guerre.
Vas-y, t'en savais pas un peu, non?
Non, mais lâche-moi!
Lâche-moi! Qu'est-ce qu'on fait?
Alors la mise en scène de François Vallat, dont c'est le premier film, est efficace, partant du drame adolescent pour aller vers le cinéma de genre, avec une dernière partie qui évoque même clairement le survival. Le réalisateur réussit même à filmer correctement, eh bien, les scènes de sexe et les scènes de violence, ce qui est habituellement assez casse-gueule dans les deux cas, il faut le dire. Et il livre une vision ici de l'adolescence, pardon, très morbide, où l'ennui, le désir et le danger se conjuguent. Assez ambitieux dans sa forme, l'évolution du film vers le quasi-film d'horreur est osée et elle tient la route. Ça fait même plaisir, on peut le dire, de voir ça dans le cinéma français, mais eh bien, c'est au niveau de son écriture et de son casting que le film pêche. Le souci, c'est à mon sens que la distribution est plutôt inégale. Hein. On retrouve entre autres Lola Lelan, découverte dans Un moment d'égarement de Richer, et Victor Belmondo, qui sont tous les deux pas très convaincants quand même. Et l'ensemble des personnages, eh bien, n'est pas très bien écrit. On ne sait pas grand-chose de leur motivation, de leur histoire, ce qui nous empêche d'avoir un quelconque intérêt pour eux. Les deux antagonistes n'ont pas suffisamment de dialogue, de passé, ni même d'expression faciale, en fait, pour que l'on s'y intéresse. Et les personnages féminins, alors également, sont un peu problématiques. Elles n'existent qu'à travers leur désir sexuel exacerbé. On peut même dire qu'elles sont relativement toutes proches de la nymphomanie. Hein. On a l'impression clairement que ces ados qu'on voit, enfin que l'on suit dans ce film, sont des animaux, les garçons ne pensant qu'à se battre et les filles étant perpétuellement en chaleur et personne ne semblant réfléchir ni discuter. Alors bon, de la part d'un metteur en scène qui était pourtant lui-même adolescent il y a visiblement peu de temps, c'est un peu étrange d'avoir une vision aussi primaire de la jeunesse, car il réussit quand même l'exploit de ne rendre aucun de ces personnages sympathiques. Et j'ai l'impression quand même que d'une façon un peu plus globale, eh bien, la représentation des adolescents dans le cinéma français est elle-même un peu problématique. Ils sont souvent très sexualisés, comme si finalement les réalisateurs projetaient leurs propres fantasmes. Et je trouve ça assez malaisant et pas très constructif au niveau cinématographique. Cependant, on peut reconnaître au film une introduction et une conclusion très efficaces, concises, percutantes. Mais entre les deux, eh bien, le film rate sa montée en puissance qui en aurait fait un long métrage réellement réussi. La réflexion sur la violence manque également un peu de fond. Tout cela étant résumé un peu trop vite et parfois saupoudré d'un humour en plus qui n'a vraiment, mais alors, aucune raison d'être là. Je sais que tu l'as vu aussi, Manu, toi.
Ben moi, j'ai trouvé très efficace sur la dernière partie. Après, oui. Bon, alors moi, c'est pas tellement l'interprétation défaillante. En fait, je m'en cogne totalement. Hein. Je dois reconnaître, mais il n'y a absolument aucun personnage sympathique. Oui. Et c'est un peu difficile de regarder un film avec que des têtes à claques.
Puis il ne parle pas beaucoup en plus, donc on n'a pas vraiment grand-chose à se raccrocher.
Ça, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien, je pense.
Voilà, le film est en salle depuis le 8 mai et autre film sur l'adolescence, on en a parlé la semaine dernière, c'est Alisté, un film roumain, celui-ci, on pourra faire toujours la comparaison, voilà, hein, sur cette vision de l'adolescence. De l'adolescence, on va passer à la cinquantaine, et oui, passé 50 ans, ils sont d'accord, ils doivent se séparer pour mieux se retrouver, c'est Retour de flamme de l'Argentin Juan Vera.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Oui, et j'ai horreur des questions.
La crise existentielle du couple après 50 ans, voilà un thème qui n'est peut-être pas si banal, tant le cinéma préfère largement les histoires de couples de trentenaires. Allez, mettons quarantenaire. Juan Vera, réalisateur argentin dont c'est le premier long métrage, s'est donc emparé de ce sujet avec une certaine habileté. Et pour son premier film, il n'a pas fait les choses à moitié puisqu'il s'est payé deux stars dans son pays, Ricardo Darín, Mercedes Morán. Le barbu Ricardo Darín, on le connaît en France depuis Amour Chienne, on l'a vu dans Ses Yeux et El Chino. Et puis dernièrement, dans le film à sketch Les Nouveaux Sauvages, c'est lui qui pète les plombs après avoir pris une prune pour mauvais stationnement. L'actrice, elle, est peu connue en France, mais c'est une star dans son pays. Et les deux acteurs, eh bien, ont la soixantaine, mais interprètent des personnages qui sont censé avoir un tout petit peu moins. Nous sommes à Buenos Aires. Marco et Anna sont mariés depuis 25 ans. Une nouvelle période s'annonce difficile à traverser quand leur fils unique quitte le pays pour aller étudier en Espagne. Leur quotidien va en être bouleversé. Et au détour d'une conversation sans conflit, hein, après un cours sur les empanadas, le couple va se séparer d'un commun accord. Même s'ils s'aiment, s'adorent, se respectent, puisqu'ils ne sont pas amoureux, eh bien, qu'ont-ils à faire ensemble ? Le choix qu'ils font, eh bien, apparaît tout de même étonnant, mais nous sommes dans un milieu intellectuel et c'est dans la patience du dialogue, dans l'étonnement des conclusions qu'ils en tirent, qu'ils se retrouvent à admettre que la vie vaut peut-être la peine d'être vécue ailleurs, pas forcément ensemble, mais différemment et avec d'autres sûrement. Ce qui fait l'une des forces de Retour de flamme, c'est indéniablement eh bien, son écriture et ses dialogues servis par deux acteurs talentueux. Côté mise en scène, le récit est grossièrement structuré en trois parties. Dans la première, on fait connaissance du couple et des personnages, on en perçoit la dimension psychologique. La seconde partie est plus légère, la comédie s'y déploie au détriment des sentiments. C'est le moment des escapades amoureuses et des séductions, des détours par Tinder, même si on ne voulait pas s'y inscrire. Et la troisième partie, qui se déroule quelques années après, eh bien, nous plonge dans la comédie romantique. Alors, quand on regarde le titre français, parce que le titre original est « L'amour moins pensant », donc là, pas facile quand même, on se doute bien que c'est une comédie du grand mariage, hein, donc ça s'appelle « Retour de flamme ». Comment donc un couple qui a passé 25 ans de sa vie ensemble peut-il retrouver la flamme ? À chaque couple, ses solutions. Et d'une certaine manière, les deux personnages vont prendre des détours similaires, avec des obstacles, des concessions, mais aussi des surprises. Comme un nouveau départ, ils vont se confronter à leur liberté, leur intimité et leurs envies. Choix particulièrement habile, les hommes et femmes qui arrivent dans la vie de nos personnages ont aussi une personnalité, une identité, un caractère qui révèle une facette du couple et de la relation amoureuse. Alors certes, le film qui pourtant s'étire hein, au-delà des deux heures ne leur donne pas autant de place que Marco et Anna qui sont le centre du long métrage, mais leurs mots et leurs attitudes ont toute leur importance pour comprendre les choix de Marco et Anna. En guise de pendant à ce couple qui se sépare dans la douceur, on nous montre eh bien, un autre couple qui lui éclate après un adultère mis au grand jour, une manière peut-être encore plus insistante pour le réalisateur de signifier que son couple, si doux, si respectueux, si éclairé, à quelque chose d'abstrait ou d'intellectuel, voire de romanesque si on veut. D'ailleurs, le film s'ouvre dans une bibliothèque avec la lecture de Moby Dick et se ferme également non loin de la bibliothèque.
Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail.
Voilà, c'était Jeanne Moreau qu'on entendait, alors pas tout à fait par hasard puisque cette chanson est bien et reprise dans une séquence de ce film qui est, ma foi, très bon, Retour de flamme, qui plaira bien surtout, pas forcément à la jeunesse, mais on avait d'autres films à leur proposer aujourd'hui dans l'émission. Allez, c'est peut-être aussi pour la jeunesse, ségrégation raciale et lutte pour les droits civils dans le dessin animé Black is Belsa.
Et maintenant,
Cinérama.
Tout est parfaitement en ordre.
Oui, pas seulement à la jeunesse d'ailleurs, hein, puisque je pense, comme le film se passe dans les années 60, les vieux hippies des années 60-70 se reconnaîtront largement dans ce film. Hein. Alors, noir c'est noir, comme dirait Johnny Hallyday, hein, le titre est clair, Belsa veut dire noir en basque, ce qui ne signifie pas que ce film soit un manifeste nihiliste sur la société contemporaine, bien au contraire, les auteurs, alors fous furieux, à l'énergie parfois mal canalisée, Fermín Muguruza et Arkay Maritz Cano adaptent leur propre bande dessinée, entourée de quelques cadors du monde de l'animation. Alors tourné dans l'esprit des adaptations ciné de Corto Maltese, Black is Belza, sans révolutionner l'univers de l'animation, s'avère une bonne surprise qui réjouira en premier les amateurs d'un cinéma basque dont on ne peut pas dire qu'il inonde les salles obscures. Alors ce long métrage, un fortement teinté d'anarchisme, sort de cadeau du ciel pour tous les révoltés nostalgiques d'une époque révolue, débute en 1965 à New York. On fait la connaissance de Manex, et non Manix, journaliste franco-basque, véritable électron libre, voyageur intempestif et journaliste enquêteur à l'affût des scandales et mouvements sociaux. Un idéal anime donc son existence chaotique, sorte d'aventurier marginal parcourant le monde pour les bonnes causes. Il assiste à la traditionnelle fête des géants de Pampelune sur la 5e avenue, dans le contexte encore houleux de la ségrégation raciale. La police interdit la participation de deux géants noirs. Évidemment, ulcéré par cette position, Manex, fidèle à son tempérament, boycotte cette manifestation, laissant en berne ses collègues. Il part à la découverte du New York interlope, alors, à la rencontre des militants pour les droits civiques et les adeptes de la contre-culture. Il va alors s'immerger, on va dire, dans un univers complexe de faux-semblants où se mêlent agents américains, silhouettes du contre-espionnage, révolutionnaires, féministes, artistes underground. Alors son périple l'amène à traverser les quatre coins de la planète, loin de son pays natal, alors dont on navigue entre Mexico et Cuba, en passant par Alger et Montréal. Alors c'est pas du James Bond, hein, certes, hein, même si ce n'est par l'aspect fun et décontracté. Ou alors un James Bond, on va dire rock'n'roll et un art défiant les institutions et les politiques en place. Manex partage néanmoins avec 007 le goût pour les conquêtes féminines sans lendemain.
Denok a la ignores.
À la croisée de l'Odyssée libertaire et du cinéma d'action politique, hein, Black is Belza se déguste d'abord comme un manifeste des années 60, une cartographie géopolitique d'un monde en pleine mutation, celui de la guerre froide, des Black Panthers, de la dictature sous Franco, de Che Guevara et des mouvements de libération des peuples. Alors, ultime doigt d'honneur, hein, le général de Gaulle, malgré son fameux discours sur le Québec libre, n'est pas épargné dans ce cocktail furieux, véritable ode à la contre-culture de l'époque, où l'on croise des figures de Jimi Hendrix, Janis Joplin, Otis Redding, les multiples références qui inondent le film, hein, y compris littéraires et cinématographiques, avec une prédilection pour les œuvres engagées autour d'un prisme, on va dire, un peu fétichiste. On voit beaucoup d'affiches de films, notamment La bataille d'Alger qui était sortie à l'époque, en 65. Hein. Alors tout ça n'étouffe pas ce dessin animé pour adultes, nourri de contestations et d'une modernité, alors tentant d'établir un pont entre les 60s et notre époque tout aussi chaotique. Car l'ambition des auteurs se trouve peut-être à ces endroits, même si ce n'est pas complètement abouti, c'est-à-dire évoquer le passé pour mieux parler du présent. Alors porté par une vraie réflexion sur les changements de société, doublé d'une critique radicale des politiques, on va dire, un peu fascisantes et conservatrices aussi, Black is Belza souffre néanmoins, alors voilà, c'est ça qui est dommage, d'une animation quand même très sommaire et d'un dessin manquant vraiment d'originalité. Alors heureusement, on va dire, compensé par un montage dynamique et une colorimétrie assez séduisante. Des défauts liés sans doute vraiment là au manque de moyens qui n'entachent pas le plaisir que l'on prend à suivre ces aventures débridées d'un reporter à la cool qui désingue le politiquement correct par son attitude, on va dire, très sexe, drogue et rock'n'roll.
Encore un film sur l'adolescence, Les météorites de Romain Laguna, que nous allons entendre dans cette émission.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, 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 je vous dis. Et même saloperie. Hein.
Nina, une jeune fille d'à peine 16 ans, s'ennuie entre son quotidien dans une petite ville du Sud et son job saisonnier dans un parc d'attractions locales. Le jour où elle rencontre un garçon de son âge, Morad, elle aperçoit le soir même une météorite s'écraser non loin de chez elle dans les montagnes. Dès lors, elle en est persuadée, cette météorite est un signe et sa rencontre avec Morad annonce le départ d'une nouvelle vie pour elle qui rêve d'ailleurs et d'aventure depuis si longtemps. Les météorites, c'est le premier long métrage de Romain Laguna, un jeune réalisateur de 30 ans, formé à la FEMIS et originaire de la région de Béziers. Un premier long fermement ancré dans son territoire natal, les paysages ici devenant un personnage à part entière, un personnage qui va accompagner l'héroïne dans sa découverte de l'amour et surtout d'elle-même. Romain Laguna filme cette région avec un amour palpable, un soin particulier apporté à la lumière et une photographie irréprochable, comme on pouvait déjà le constater aussi dans ses courts-métrages précédents, notamment A3 sur Marianne et Je mange froid, sélectionné par ailleurs pour les Césars 2019. Romain Laguna sait capter son époque, sa jeunesse, ses dialogues et ses personnages sont toujours très justes. Avec Les météorites, il s'éloigne quelque peu du naturalisme de ses premières œuvres et il ose brouiller les pistes en s'aventurant à la frontière du fantastique. Et puis l'épicentre du film, hein, la météorite incandescente, j'ai envie de dire, qui le traverse, c'est la très jeune comédienne Zéa Dupresse, qui est de tous les plans et qui irradie, mais littéralement, l'image avec une rare intensité. Découverte en casting sauvage, la jeune fille ne se destinait pas du tout à une carrière dans le cinéma. Et alors, elle fait preuve ici d'un naturel et d'une énergie, mais vraiment transcendante, qui porte le film. Un film qui serait, c'est vrai, sans sa présence, peut-être un poil trop contemplatif, mais qui est quand même, attention, un très réussi à mon sens, poétique, assez mystérieux. Les météorites exigent du spectateur de se laisser bercer par son rythme singulier et sous de fausses allures, donc de chroniques adolescentes, eh bien c'est un beau portrait de femme en devenir, une jolie métaphore de la quête d'identité. Et on va écouter tout de suite mon interview du réalisateur Romain Laguna.
Oh putain !
C'est presque le seul élément scénaristique et ce qui nourrit le personnage et sa croyance. Et tout le reste du film, finalement, je l'ai conçu comme une sorte de vide où y a cette histoire avec son garçon et tout ça, mais ce qui tend le récit, c'est vraiment cette vision qu'elle a au début dans le ciel. Après, le film joue sur deux niveaux aussi. Il y a la clé d'entrée très réaliste, chronique, avec ses jeunes, un peu documentaire et tout ça. Et puis, moi, j'ai essayé aussi d'explorer autre chose, d'aller un peu vers le genre, l'onirique, d'essayer de rentrer dans sa tête, en fait, dans la tête du personnage. Et oui, la météorite, elle permet la métaphore, l'onirisme et... Et oui, ça dit quelque chose de ce passage d'âge. L'idée, c'était que justement, les histoires d'amour sont un peu foireuses et le mec un peu limite aussi.
Oui, mais...
Et qu'elle se rende compte finalement que ce qu'elle a fantasmé et tout, c'est du vent. Et la seule chose qui lui reste, c'est cette vision qu'elle a eue au début du film.
Désolée, il y avait des embouteillages.
Je m'en fous. T'es au travail ici. L'heure, c'est l'heure. Ça va être la guerre cet été. Faut pas que tu recommences. Tiens. T'es dans quel lycée ?
Moi, j'ai arrêté. Ça me plaisait pas du tout. Et toi ?
J'ai la sœur d'un pote qui va ouvrir une boutique à Paris. Paris, les Champs-Élysées.
Ce qu'on a essayé de faire avec ce personnage, c'est que quoi qu'il arrive, elle se raccroche toujours à quelque chose. C'est-à-dire quand ce gars disparaît, elle se raccroche à l'idée de l'enfant. Et elle a toujours comme ça quelque chose de moteur. Et puis quand en fait, elle se rend compte qu'elle n'est pas enceinte, que c'est elle qui s'est inventé ça, hop, c'est là qu'on revient sur la météorite. Et quoi, je veux dire, le personnage est toujours tendu par...
Oui.
Par une croyance, quelque chose qui le fait avancer.
Je te trouve refaite.
Je pars en septembre, après les vendanges.
On n'est pas bien ici.
Voilà, t'es sérieuse, Nina. Tu vois pas comment le monde y part en couille. On peut rester caché dans notre montagne. Faut faire un truc.
C'est devenu un film sur elle, alors que quand on écrit un scénario, ça reste une histoire. Et bien sûr, il y a encore une histoire, mais là, c'est devenu elle, l'histoire aussi.
Un bandolero, se reconnaît, tu revois un bandolero. La désirée du bateau.
Et ton trafic, là, ça marche bien?
Quel trafic?
Non, parce que moi je suis au chômage, on pourrait s'associer.
Je crois qu'on va aller en Colombie, faire des affaires avec Tony Montana.
Allez, c'est bon.
Nina! Viens!
Putain! Ta gueule!
T'es ma boussole, Nina!
Allez, c'est bon.
Ce film-là, il tient aussi parce qu'on croit aux jeunes comédiens. C'est le réalisme qui le tient. Et après, je peux m'échapper un peu. Mais je pouvais pas aller trop loin non plus. Je suis pas allé aussi loin que ce que j'aurais voulu. Je veux dire, dans l'onirisme, voilà. Mais c'était bien de tester ça, en tout cas, avec ce film.
J'ai vu une météorite dans le ciel. Elle s'est écrasée dans la montagne.
Nous écoutions Romain Laguna, réalisateur des Météorites. Interview quasi exclusive. La famille est interrogée dans Fugue, un film polonais.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Eh bien, oui, je crois que oui.
Alors le pré-générique de Fugue, une sorte de préambule assumant un héritage surréaliste, représente sous une forme animée un cafard sortant de la bouche d'un visage féminin qui va se faufiler à l'intérieur d'un trou. Alors cette imagerie graphique, excitante par la finesse du dessin, se clôt par un fondu enchaîné qui nous propulse alors à l'intérieur de Fugue, œuf fascinant aux contours arides. Alors de l'insecte se faufilant dans les profondeurs inconnues, sous la surface esthétique, surgit alors dans le prolongement du récit, une femme qui déambule sur les rails d'une ligne de train. Elle grimpe sur le quai, alors l'air complètement hagard, claudiquant, telle une silhouette s'extirpant d'un monde souterrain. Alors devant tout le monde, elle s'immobilise, s'assied et urine, mettant fin à un prologue d'une très grande force, on va dire narrative et puis plastique. Alors 2 ans plus tard, cette femme, les cheveux courts et hirsutes, alors qu'elle était blonde, avait les cheveux longs, est assise dans un hôpital. Elle se fait appeler Alicia. Depuis son arrivée à la gare, elle a perdu la mémoire et se demande comment elle en est arrivée là. Alors mutique et renfermée, elle ne souhaite pas vraiment se remémorer son passé, comme si quelque chose la troublait. Suivie et conseillée par son psy, elle accepte de participer à une émission de télévision évoquant son cas de fugue dissociative. Exposée ainsi, sa famille la reconnaît. Elle est alors contrainte, on va dire, de s'immiscer dans une existence qu'elle ignore, d'endosser le rôle de mère, d'accepter de vivre avec celui censé être son mari. Désormais, ce n'est plus Alicia, mais Kinga. Alors, second long métrage de Agnieszka Smozinska, après le très étrange The Lure, qui était une histoire un peu insolite de sirène, Fuchs s'empare d'un sujet de société, ou plutôt d'un cas clinique, pour le transformer en un drame introspectif suffocant. L'arrivée d'Alicia dans un environnement qu'elle perçoit comme hostile au départ place le spectateur dans une situation, on va dire, embarrassante, presque intrusive. Elle observe son entourage avec détachement, l'agacement n'est pas loin. Le premier ressentiment légitime qui, suppose-t-on, la traverse en fait, est sans doute « mais qu'est-ce que je fais dans cette galère ?» Et au fond, on la comprend. En un instant, l'écrasante présence de la famille éclate à l'écran. Eyes will drift to the sky. Le malaise éprouvé par l'héroïne se traduit visuellement par une mise en scène concise, avec une prédilection pour les gros plans, les longs plans fixes, composés, même pas gros plans au contraire, on est souvent sur des plans larges, panoramiques même, un peu à distance des personnages. La caméra invite le spectateur à observer la reconstruction illusoire d'une famille. Alicia ne se souvient pas, mais demeure persuadée qu'une raison valable à son amnésie existe. Elle semble loin de la bourgeoise conventionnelle accomplissant son rôle de mère idéale au cœur d'une société polonaise archaïque où la place de la femme est encore régie par des principes patriarcaux, plus punk, plus rebelle et moins blonde. Elle revendique même inconsciemment une nouvelle identité, un besoin d'indépendance. Alors Fugue effleure par cet aspect une dimension hitchcockienne intéressante, lointain écho à Vertigo. La blonde devenue brune n'est finalement plus la même personne. La réalisatrice filme très bien la tentative d'Alicia et Christophe essayant de renouer une communication fluide en allant danser, dîner avec des amis qui sont absolument insupportables et baiser dans un parking comme des jeunes amoureux, mais rien n'y fait, un vent glacé traverse leur union illusoire. Alors Fugue doit énormément beaucoup au jeu intériorisé et très très intense de l'actrice Gabrielle Muscala, impressionnante dans le rôle de cette mère tiraillée, on va dire entre absence et présence, forcée de réintégrer une cellule asphyxiante. Alors l'explication finale épouse la triste réalité de cette, on va dire, une cruelle banalité des couples en crise à travers une illustration saisissante des ténèbres. Alors ces ténèbres qu'il faut parfois affronter pour mieux s'en extirper, condition libératrice pour goûter à une nouvelle existence. Alors Fuchs peut s'envisager comme, on va dire, une interprétation, on va dire, très intime, voire féministe même, de l'allégorie de la caverne de Platon, la grotte substituant à la prison dorée que symbolise le modèle familial qui est érigé un peu en norme indépassable par un système social un peu coercitif. Alors au final, c'est un très beau film, l'émotion rare mais contenue, pour peu qu'on apprécie ce cinéma de l'Est assez cérébral, qui n'est pas sans rappeler les très beaux films du regretté Krzysztof Kieślowski.
Nous n'avons rien fait pour la mort d'Agnès Varda. Et là, cette fois-ci, on vous propose un blind test pour bien se remémorer les rôles majeurs d'Anémone, décédée le 30 avril dernier à l'âge de 68 ans.
À quoi sommes-nous confrontés ?
Cinérama.
C'est quoi ça ? Une blague ou quoi ?
Alors, il va y avoir beaucoup de films. Les films alors majeurs, pas forcément les films où elle était au premier plan, mais les films qui ont marqué. Et ces films-là sont plutôt dans les années 80. On commence normalement avec quelque chose de facile.
J'intéresse pas les autres.
Bon, tu dis n'importe quoi. T'es mignonne, t'es sympa, t'es intelligente.
Mais je suis grosse.
Mais arrête tes conneries, j'en ai vu des plus grosses que toi.
Ou ça, au cirque.
Mais bois ton café, il va être froid.
Dis donc, machin, tu vois, c'est bien que tu veux que je bouge.
Mais qu'est-ce que t'as, toi ?
Quoi, qu'est-ce que j'ai ? Si t'es énervé, il y a des putes.
Mais tu vois bien, là ?
Ouais, c'est ça, c'est moi qui suis pas bien, le vicelard.
Ah non, mais c'est le bouquet, ça.
Laisse tomber, laisse tomber.
Mais non, mais si tu veux pas contre Matt, t'as qu'à pas te balader à poil, hein ?
Je t'emmerde !
Arrête,
Non, toi, le micro, tu devrais la calmer parce que ça va mal se terminer, là.
Et ça s'est mal terminé.
Langage fleuri.
Oui.
Ma femme s'appelle Revient, de Patrice Lecomte.
Oui.
81, je crois.
Alors, 82. Cette fois-ci, c'est un film de 81, maintenant, et il y a encore Michel Blanc.
Voilà, c'est réparé. Bon, écoute, tu me plais bien, alors tu vas oublier ton casse-croûte de 5 minutes, hein ?
Oh non ! Voilà.
Pourquoi ?
Mais parce que j'ai pas envie. À deux, je trouve ça triste.
Comment ça, à deux ?
Bah oui, ce serait plus sympa si t'allais chercher tes copains.
Pardon ?
T'as jamais fait ça à plusieurs ?
Oh, si, 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 souvent.
C'est tes copains qui aiment pas ça ?
Si, mais là, ils dorment, alors.
Mais va les réveiller ?
Non, ils aiment pas quand ils dorment.
Ah bon, mais faut que je parte.
Mais attends !
Alors, trouvez.
Viens chez moi, j'habite chez une copine de Lecomte aussi.
Eh oui, oui, Lecomte et encore Michel Blanc, voilà, c'est ça. Allez, on quitte les deux pour un troisième extrait.
Margarité en tes porcos.
De quoi ?
Des perles au cochon.
De ravissantes petites perles fines à un gros porc répugnant. Vautré dans la pâté à chien avariée.
Ça va, merci. J'ai compris, c'est déjà pas commode comme ça. Merci.
Ah non, non, on ne remercie pas un domestique à haute voix. Un regard, à la rigueur.
Vous m'excusez, je vous avais pris pour un être humain.
Oh, comme c'est touchant, comme c'est admirable. Moi-même, qui ne suis pas un être humain, juste une simple tirelire, j'en pleurerais.
Bon, Jonathan, on va se faire un petit break parce qu'il faut que je dise deux mots, mademoiselle.
Non, madame, si vous le voulez bien. Mariée ou pas, une princesse royale s'appelle toujours madame. Vous feriez mieux de bûcher avec Jonathan, mon petit Paul, vous n'êtes pas prêt.
Bon, c'est que tu commences à me gonfler, toi, hein.
Mes petits choux. Mais encore deux engueulades comme ça et le valet de chambre nous dénonce à Paris Match.
Alors là, c'était Dominique Lavanant et puis on a entendu juste avant Thierry Lhermitte et ça vous sèche un peu quand même. Alors c'est un film où là, Anémone a quand même un plus grand rôle. Elle joue une princesse.
Ça me dit quelque chose. Hein. Je pense l'avoir vu.
Alors c'est le mariage du siècle.
Ah non. Un
film de Philippe Galland. Oui. Sorti en 85. Mmh. Oui, tu avais quelques éléments. Allez, quatrième extrait.
Ça s'arrangera. Et en attendant, je vais le dorloter, ton poussin. Ça va mieux, toi? Tu peux répondre, Louis? Oh, laisse, va. C'est encore d'avoir la bouche pleine qui fait le plus plaisir. Tiens, regarde donc ta voisine qui vient fureter par là. Elle a jamais vu de petit parisien d'aussi près, tu comprends? Entre, Martine, le te tord le cou.
Bonjour, madame.
Bonjour. Tiens. Prends des gâteaux, toi aussi, emmène-lui faire le tour de tes bêtises. Je suis sûre que ça l'intéresse.
Va jouer dehors, Louis.
Tu laisses pas impressionner, va. Elle a l'air comme ça, mais c'est plus d'âne que dégourdie. Allez, on a à parler toutes les deux.
Alors, je vous parlais de film majeur, hein, parce que celui-ci lui a permis de remporter le César de la meilleure actrice en 88 dans le rôle de Marcel. C'est Le Grand Chemin de Jean-Louis Baird.
C'est vrai.
Ah oui. Allez, là, vous allez pouvoir vous rattraper. C'est au premier, hein, et vous aussi.
Le Père Noël est une ordure.
C'est peut-être ça.
Oh, une serpillière, c'est formidable, Thérèse. Je suis ravi, écoutez.
Non, Pierre, c'est un gilet.
Ah oui? Ah ben, bien sûr. Ah ben, alors, bien sûr, c'est un gilet. Il y a des trous plus grands pour les bras. Alors, je suis ravi, Thérèse. Je suis ravi.
Et point de vue coloris, parce que j'avais pensé à un joli camaillot de bleu marine, comme je sais que vous aimez bien, puis je me suis dit, dans ces tons-là, ça changera.
Vous avez tout à fait raison, Thérèse, parce que le gris et le bordeaux, ça va avec tout, alors ne risquez pas de vous tromper.
Puis c'est une chose qui n'est pas commune et que vous ne verrez pas chez tout le monde, hein.
Ah, mais j'espère bien, Thérèse, j'espère bien. Écoutez, si vous saviez ce que ça tombe bien, je me disais encore hier soir qu'il manquait quelque chose pour descendre les poubelles. Je suis ravie, Thérèse.
C'est vrai? Oh, je suis contente que ça vous plaise, parce que, bon, bah...
Alors, c'est ce qu'on appelle une scène culte du cinéma. Et alors, il paraît que la jeune génération n'a pas forcément connaissance de ce film que d'autres générations.
Mais ça a quand même bien 40 ans.
Bah oui, mais bon, quand même.
Pas loin de 40 maintenant.
Ça repasse tous les Noëls, me semble-t-il. Enfin, bon. On ferme ce blind test et on passe au super-héros aux cornes coupées qui repart de zéro. C'est Hellboy.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Ils nous ont dit de nous préparer au pire.
S'il existe un seul moyen de mettre fin à cette guerre interminable, ce sera grâce à toi et à ta main droite dévastatrice.
Quel film pourrait entraver l'insolente réussite d'Avengers qui approche les 5 millions d'entrées en seulement 2 semaines d'exploitation? Eh bien sûrement pas Hellboy, le super-héros diabolique, troisième opus de la franchise initiée en 2004 et 2008, avec Guillermo del Toro à la réalisation. De franches réussites, surtout critiques, mais le réalisateur mexicain avait indiqué qu'il n'y aurait pas de suite. De quoi décevoir les fans, d'autant plus à la vue de ce nouveau Hellboy qui se joue aussi sans Ron Perlman qui a quitté le projet. Alors qu'il n'est donc pas une suite, mais un reboot. On est maintenant habitué à ce terme, cela signifie qu'on redémarre la série comme si de rien n'était, comme si les autres films n'avaient jamais été tournés. À la réalisation de cette adaptation du comics américain décalé, l'anglais Neil Marshall, un réalisateur connu pour son penchant pour l'horreur, avec The Descent et d'autres films un peu plus confidentiels, et il a aussi œuvré pour la série Game of Thrones. Alors c'est plutôt ce versant de l'horreur qui nourrit le projet, finit l'ambiance gothique et fantasy des deux premiers volets. Le concepteur du personnage Mike Mignola a voulu que le film soit plus adulte, plus horrifique que la vision poétique apportée par Del Toro. On a donc droit à des scènes gore très explicites, des éventrements, des démembrements, des têtes fracassées, des yeux énucléés et j'en passe. Alors évidemment, rien n'est sérieux. Hellboy, alors est-ce qu'on doit rappeler de qui il s'agit? Hellboy, donc c'est le garçon de l'enfer. parce qu'il a été pris, enfin, il a vécu toute son enfance en enfer. Voilà. Hellboy est volontiers déconneur, il est aussi un peu sombre, hein, mais il ne manque pas de dérision et est toujours prêt à la bagarre. D'autant plus qu'on l'apprend dans cette histoire, il pourrait très bien exterminer l'humanité. Certes, il a été accepté par les hommes, pris sous son aile par un agent des services secrets chargé de lutter contre les activités paranormales. Il a coupé ses cornes du diable, mais voilà, eh bien, la sorcière Viviane, une fois remembrée, interprétée par Mila Jovovich, actrice habituée aux films poussifs, va tenter de le débaucher.
Écoutez-moi attentivement, une sorcière du 5e siècle se promène dans la nature. Elle veut anéantir Londres et le monde entier.
Cool, tes devoirs.
En mêlant la légende d'Arthur, Rasputin, les nazis, l'histoire nous en apprend plus sur le destin de Hellboy, mais aussi comment un monstre peut être poli par l'humanité. Au-delà du gore qui pourrait plaire aux amateurs du genre, l'histoire qui nous est racontée là est simplette. Et les compagnons d'Hellboy ont changé, ceux-là sont plus conventionnels, moins intrigants. La mise en scène insistant sur l'aspect visuel, les blagues faciles et les insultes pour espérer rameuter le public de Deadpool, eh bien on finit par attendre patiemment que les enfers soient refermés pour qu'on ne parle plus de ce fléau qui nous pend au nez et auquel on n'a jamais vraiment cru. Hellboy n'est peut-être pas alors aussi raté qu'on le dit, hein, même si critiques et spectateurs américains sont d'accord, il a fait un flop terrible là-bas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est décevant par rapport à ce qu'il fut, ce Hellboy, bien sous la direction de Del Toro.
Del Toro, oui. Bah, parce que les gens devaient en attendre trop aussi, je pense.
Peut-être.
C'est fini ? Eh bien, oui, je crois que oui.
Oh, c'est pas possible.
Ah, si, je vous assure.
Non, vous n'avez pas perdu de temps, c'est très bien.
Foutez ma camp !
La semaine prochaine, Cannes aura débuté. Nous aurons vu eh bien, le film d'ouverture de Jim Jarmusch. Et puis, eh bien, on passera aussi une interview du réalisateur de Petra. Et quant à toi, Manu, tu parleras de...
D'un film sud-américain, film d'horreur étrange, qui s'appelle Meurt, monstre, meurt.